Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, on se retrouve comme chaque vendredi soir pour Kabbalat Shabbat. Cette émission est ensuite rediffusée le samedi soir. Et nous sommes en ligne avec Ravelli Lemed. Bonsoir Ravelli.
Bonsoir.
Chaque semaine avec vous sur Radio Shalom, nous survolons la paracha de la semaine. Et je voudrais dédier notre émission de ce soir, avec votre permission, au Rav Rosenberg, Zatzal, puisque on arrive à sa deuxième année. C'est le aspect de sa deuxième année de son départ de ce monde. Et mercredi et jeudi, il va y avoir une campagne, les gens maintenant commencent à bien connaître, c'est des campagnes à l'Odon, où on essaye de soutenir ces institutions. Rav Rosenberg, que vous avez bien connu, que votre père a bien connu, qui a marqué votre vie, et un tout petit peu la mienne, en moins, Rav Rosenberg a été le grand Gaon, qui a vraiment rayonné sur Paris, sa région, mais aussi sur l'Europe. Il était le responsable du Daf HaYomi, il avait des élèves au Canada, dans le monde entier, en Israël évidemment. Et donc, avec votre permission, on va dédier nos réflexions ce soir et notre émission au Rav Rosenberg. Je vous ai même pas prévenu tellement je sais que vous êtes d'accord.
Évidemment, la question ne se pose pas.
Et donc, en précisant qu'il y aura un Alodon, donc la semaine prochaine, il y aura un grand cours de Rav Yosef Rosenberg, son fils. Et je vous demande de bien recevoir les bénévoles lorsqu'ils vous appellent sur votre téléphone, de transmettre les WhatsApp quand vous en recevez, d'être bienveillant, parce que bon, c'est pas facile pour des bénévoles qui bien sûr ne gardent pas un centime de ce qu'ils arrivent à récolter pour des institutions de Torah comme celle-ci. Et donc voilà, juste évidemment que je vous demande aussi de mettre la main à la poche, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Aider, on peut aider avec des petits dons, c'est pas difficile, puisque justement c'est pas un gala, c'est pas on se présente devant tout le monde, c'est un alodon, on connaît bien depuis le début de la crise sanitaire. Je vous demande vraiment de participer, parce que si nous tous, moi, l'élève de Élie Lemel, et Élie Lemel qui avait la possibilité d'avoir des conversations à talmudique avec Rav Rosenberg, si on est là, vraiment c'est grâce à des gens comme Rav Rosenberg, vraiment, je vous le dis, cette Torah en l'an 2021, il s'est passé par des gens comme Rav Rosenberg. Donc je vous demande de faire un effort. Voilà, je vous ai dit ce que j'avais d'important à dire, et maintenant on va voir ce que Rav Élie Lemel a de très important à nous dire sur la paracha. On arrive à Mishpatim. Mishpatim, c'est un code de loi. Par exemple, Baba Metzia, c'est dans Mishpatim. Par exemple, tu ne favoriseras pas le pauvre, c'est dans Mishpatim. Le philosophe Hegel disait, c'est la plus belle phrase de toute la Torah. Et Rav Élie Lemel, une question, ceci dit. Pourquoi on précise d'emblée, voici les lois qui vous ont été données du Sinaï?
Alors, en effet, Vela Mishpatim.
Tout un programme.
En effet, on ne le précise pas dans le verset, c'est quelque chose qui ressort de la terminologie utilisée au début de la paracha, puisque la paracha commence par « veu elé amishpatim », c'est-à-dire avec cette conjonction de coordination, « veu elé » et « voici les lois », ce qui est quand même curieux, parce qu'a priori, on aurait dû marquer « elé amishpatim », « voici les lois ». Le « veu elé » et « voici », évidemment, est surprenant. Et donc, Rashi, sur place, nous dit non, « veu elé » et « voici », c'est pour nous dire « maelu misinaï et felu misinaï », de la même manière que ce qui vient d'être dit provient du Sinaï, et bien ce qui va être dit provient du Sinaï. Traduction, nous devons poser un regard sur ce qui a trait à la loi juive au niveau de ce qu'on appellerait ces règles civiles, en sachant qu'elles sont du Sinaï, et donc évidemment y avoir un rapport différent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Vous voyez, dans toute société, on a besoin de construire un système juridique qui va permettre de gérer toutes les situations qui sont présentes au niveau des conflits, d'autres choses. Et puis après, on va penser, repenser, actualiser, réactualiser. Évidemment, toujours dans un but le plus noble qui soit, c'est-à-dire d'organiser la société de la manière la plus positive, que les conflits soient résolus, que les choses se construisent. Et évidemment, on est sûr que C'est ça l'état d'esprit de ceux qui pensent la loi et ceux qui appliquent la loi. Et là, on est en train de nous dire, attention, dans la mesure où ces lois sont les lois de la Torah et qu'elles proviennent du Sinaï, c'est-à-dire elles sont révélées, eh bien, sache qu'elles sont les lois par excellence qui permettent à une société de fonctionner. Et attention, mais on ne pourra les revisiter. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'on a toujours tendance à vouloir contextualiser la loi, on a tendance à vouloir penser la loi fonction d'une époque, fonction des individus qui l'ont constituée, fonction des systèmes mis en place, et donc on repense la loi fonction des nouveaux cadres. Et là, hein, c'est pas du tout le cas. On est en train de nous dire non. Le Sinaï, c'est une révélation, c'est une parole qui est absolue. Eh bien, celle-ci doit l'être aussi de la même manière. Et évidemment, à nous de découvrir en quoi cette parole du Sinaï, c'est une parole qui est toujours d'actualité. Alors, pour ceux qui ont l'habitude d'ouvrir un petit peu le Talmud ou qui s'y intéressent, vous savez qu'au niveau des lois civiles, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que c'est une série de jurisprudences. C'est-à-dire, on va constater que dans ce qu'on appellerait la loi civile, on ne donne pas des règles, on ne parle de cas. On ne parle de cas, et puis avec les cas, eh bien, on analyse, on essaye de comprendre, et puis on est capable de les transposer, au fond, dans d'autres situations. Ce qui fait que les situations que nos maîtres nous décrivent, de bœufs, d'ânes, de trous, de puits, enfin voilà, toutes ces choses-là, de potiers qui se promènent, et quelqu'un qui est avec sa poutre, et puis le potier est là, et l'autre, la poutre lui rentre dedans, enfin, toutes ces choses-là, au fond, eh bien, ça peut nous concerner parfaitement, mais c'est à nous de savoir comment on les incarne, et d'ailleurs, tout le principe de ce qu'on appelle les tchouvot, les shelot tchouvot, c'est-à-dire les responsas, eh bien, très intéressant de voir que les maîtres qui établissent des responsas par rapport à toutes les questions qui leur sont posées vont en premier lieu explorer le Talmud, parce que c'est là-bas où ils vont retirer, et ça c'est en effet l'univers du Mishpat tel que cette paracha va nous l'exprimer. Et intéressant parce que qui dit jugement, qui dit justice, dit juge. Et vous savez que, à propos justement du juge, et c'est d'ailleurs ce qu'on va retrouver dans la paracha, il y a marqué Elokim nitzav ba'adat el. Dieu se tient debout ba'adat el, dans l'assemblée el. Eh bien, el, ça désigne les juges. En effet, dans la paracha de cette semaine, on va voir un moment Elohim lotokalel. Et là, on parle des juges aussi, c'est-à-dire on ne parle pas nécessairement de Dieu. Et c'est très curieux parce que pourquoi un tel nom pour des juges, quand même, c'est assez surprenant. On aurait pu imaginer qu'un juge, ok, va avoir des prérogatives, on va lui donner, mais là on dit non, c'est comme Dieu. Alors, c'est là pour deux raisons, au fond. La première, c'est parce que le juge n'est là que pour transmettre la parole d'Hachem. Il n'est que la gorge, non pas comme un prophète, mais c'est presque ça. C'est-à-dire, il va chercher ce que la Torah a à dire sur ce sujet, et non pas ce que lui en pense. Il va chercher ce que la Torah a à en dire. Évidemment, le propre des très grands maîtres dans le peuple d'Israël, c'est d'avoir tellement, si je peux m'exprimer ainsi, absorbé de Torah, que leur parole est une parole de Torah, et qu'ils ont, au bout d'un moment, ce qu'on appelle Sechel Hayashar, un esprit qui est d'une droiture incroyable, et qui voit les choses telles qu'elles doivent être. Ça, c'est déjà le premier point, et c'est par rapport au juge. C'est-à-dire que lui-même doit savoir qu'au fond, eh bien, c'est Dieu qui lui a donné cette possibilité à un moment de dire à voix haute ce que serait cette parole de Dieu dans une situation X, Y, Z, et donc qu'il prenne la mesure de cela. Et puis aussi pour les personnes qui sont là et qui doivent savoir qu'au fond, eh bien, c'est ça qui est censé être le juge. Alors évidemment, on peut mieux comprendre pourquoi la Torah a une vision très lourde sur le juge qui se dévoie, sur le juge qui devient fonctionnaire, et ça on peut le voir, sur le Dayan qui à un moment pourrait être mu par des intérêts personnels et sans s'en rendre compte au fond, eh bien, altérer la justice, parce que c'est la justice qui permet, c'est un des trois piliers sur lequel l'univers fonctionne. Donc voilà déjà une première dimension, et après évidemment, on rentre dans la paracha et on commence tout de suite à nous parler, eh bien, de toutes ces lois Et ce que je trouve très intéressant, c'est que la première loi dont on parle, on en avait déjà parlé d'ailleurs sur votre antenne l'année dernière, la première loi, c'est la loi qui concerne ce que j'appellerais aujourd'hui la relation employeur-employé, c'est-à-dire celle dont on parle de l'esclave juif. Mais on sait très bien que ce n'est pas un esclave, puisque nos maîtres disent que celui qui a acheté un esclave, c'est acheter son propre maître. C'est plus quelqu'un qui vient servir une personne qui la paye évidemment, et de manière générale, à la base, cette personne-là qui vient travailler pour ce tiers et qui va rester chez lui pendant 6 ans, qui va être le révèle, le serviteur, c'est parce qu'il doit rembourser une dette qui est liée à un vol. Et la Torah nous dit, eh bien, sache que celui-là, qui est chez toi parce qu'il a volé, et il va travailler chez toi, il va rembourser sa dette avec l'argent avec lequel on va le payer, eh bien, celui-là, tu dois le considérer comme si c'était un invité comme d'autres, si ce n'est qu'il doit travailler pour toi. Pourquoi ? Parce que la réhabilitation dans la tradition juive, c'est montrer à l'autre que quels que soient les dysfonctionnements qu'il a pu avoir, ce n'est pas pour autant qu'on va lui construire un casier judiciaire qui l'enferme totalement. Et alors, c'est très intéressant parce que dans cette histoire-là, au moment où on se retrouve avec ce fameux Eva d'Ivry, la Torah est en train de nous dire, eh bien voilà, sache que lorsque quelqu'un à un moment va être dépendant de toi, tu dois être très vigilant avec lui, tu dois être sensible à lui. Autre élément que je rajoute, la Torah nous dit que je n'ai pas le droit de demander à Eva d'Ivry de faire des choses qui ne sont pas comprises dans son contrat de travail. Pourquoi ? Parce que comme il ne peut pas me le refuser au regard de la relation de subordination qu'il a vis-à-vis de son propriétaire, eh bien, quelqu'un qui ne peut pas vous dire autre chose que oui, eh bien, on ne peut pas lui demander. J'aime bien le traduire à travers cette phrase que la valeur d'un oui dépend de la capacité de dire non. S'il ne peut pas dire non, ben, son oui ne vaut rien. C'est toutes les problématiques de harcèlement, d'ailleurs. Ben, l'autre, on sait très bien qu'il ne pourra pas dire non. Alors, même s'il dit oui, mais ce n'est pas un vrai oui. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à explorer ici. Mais le point sur lequel je vais m'arrêter ici, c'est que, eh bien, le Eved d'Ivry, pourquoi on en parle ici ? Pourquoi tout de suite on en parle ? Il y a plein d'autres lois. Peut-être que l'idée serait la suivante, c'est qu'au moment où Dieu dit, voilà, on va parler du monde des Mishpatim, on va parler du monde des lois, de celles qui vont organiser votre société, eh bien, vous savez, c'est de quoi je vais parler en premier ? C'est de quelque chose qui vous touche particulièrement. Vous venez de sortir d'Égypte, vous avez été esclave, vous avez travaillé pour d'autres, mais dans des conditions inhumaines. Donc vous voyez encore mieux ce que ça veut dire d'être employé de quelqu'un. Parce que j'utilise volontairement ce terme de « employé », parce que personne ne va dire « bon, mais c'est un employé, bien, travailler pour quelqu'un d'autre, ne pas être totalement indépendant, c'est pas simple, même si certaines personnes préfèrent être employées, mais qu'on le veuille ou pas. » Et donc Hachem dit « voilà, sachez que les premières lois que je donne, ce sont des lois dans lesquelles, eh bien, vous allez être particulièrement sensible. » Et je crois qu'il y a ici un message, au fond, très très important qu'on est en train de nous adresser. C'est que lorsque l'on parle de justice, lorsque l'on parle de règles, lorsque l'on parle d'organisation de société, il est important de ne pas voir cela juste comme étant des lois un petit peu techniques, sèches, mais se rappeler que au fond, nous devons être dans un ressenti, nous devons percevoir que derrière tout conflit, il y a des individus. Après, évidemment, la loi va être là, mais elle va être, j'ai envie de dire, non pas gouvernée, parce que ça serait faux, mais elle va être empreinte, imprégnée quand même du ressenti, et cet élément-là, évidemment, va intervenir à l'intérieur de ça. Voilà un petit peu, j'ai envie de dire, ce qui va se passer dans le monde du Mishpat, voilà un petit peu ce que ça veut dire l'univers des Mishpatim. Et donc, à partir de cela, on comprend ô combien la Torah a besoin de nous préciser « Ma elu mi Sinai a fait elu mi Sinai » de la même manière que ceux-là sont venus au Sinai, toutes ces lois fondamentales des 10 paroles, eh bien, même ces lois qui nous semblent parfois peut-être très techniques, eh bien aussi, il faut se rappeler d'où elles proviennent, comment il faut les aborder, et surtout intégrer à l'intérieur d'elles tout ce qu'il y a dans notre dimension d'humanité.
Rav Eli Lemel, merci pour ces explications, pour ce très beau vort, et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Bonsoir à vous, à la semaine prochaine.
Bonsoir. À la semaine prochaine. Ah.
retrouve le Rav Mordechai Bitton. Bonsoir, Shabbat Shalom, Rav Mordechai.
Shabbat Shalom à nous tous. J'espère que bientôt nous serons délivrés de cette pandémie, que nous pourrons voyager, nous retrouver sur le plateau de Radio Shalom en direct.
Amen,
nous voir enfin.
Et on va se voir bien sûr avec plaisir. De toute façon, ça arrivera tôt ou tard. On espère juste que ça arrive le plus tôt possible.
Amen.
Rav Mordechai Bitton, on rappelle que cette émission est dédiée à Rav Rosenberg, Zatzal, qui, on l'a dit avec Elie Lemel, on marque sa deuxième année, ce sera mercredi soir, et donc on a décidé de lui donner cette émission, Leilui Nishmat, pour ce très grand Gaon de Torah. Et alors on continue à réfléchir sur notre paracha, qui est celle de Mishpatim, et on voit dans cette paracha toute une série de lois, on l'a dit, mais... Vous, vous dites, attention, j'y vois aussi le rapport entre l'argent et l'âme. Alors ça, c'est intéressant. Pourquoi est-ce que vous voyez ce lien ?
Effectivement, cette paracha de Mishpatim contient 53 mitzvot et 53 commandements, et la plupart des commandements s'appliquent finalement aux relations interpersonnelles, et notamment aux relations d'affaires, les relations d'argent... et notamment tous les conflits qui peuvent souvenir, donc à partir de problèmes de propriété, des problèmes de vol, mensonges, la manière dont les tribunaux rabbiniques vont traiter les problèmes, etc. La paracha s'ouvre sur les lois concernant l'esclave. On sait que l'esclave était quelqu'un qui avait plaidé, qui ne pouvait pas payer ses dettes, et qui donc devait se vendre comme esclave. Donc si vous voulez, il y a en apparence un code civil, en fait, tout simplement, voilà, Mishpatim, ben, c'est un code civil, c'est finalement l'ensemble des lois qui vont régir la société juive et quand elle va bien, quand elle va mal. Alors, nos mefarchim, nos commentateurs, ils sont allés chercher un petit peu plus loin et puis ils se sont rendus compte que dans le Zohar, il était fait la chose suivante. « Ve'ele ha-mishpatim ha-shat-sivrihem » Voici donc les mishpatim, les lois que tu vas disposer, expliquer au Bnei Israël. Et nos sages nous disent, derrière ces mishpatim, il y a raza des gilgulim, il y a le sod des gilgulim, c'est-à-dire du retour des gens, des âmes, qui ont besoin de réparer un certain nombre de choses et qui vont revenir après, plus tard, pour réparer ce qu'elles ont défait. Alors, de quoi il s'agit ? Pour le comprendre, il faut comprendre d'abord ce qu'on nous dit au sujet donc d'un interdit, qui est l'interdit de traiter les affaires qui opposent deux juifs, les affaires financières qui opposent deux juifs, devant un tribunal non-juif, quand bien même, nous dit le Shulchan Aruch, quand bien même le tribunal non-juif traiterait ses affaires en suivant les lois de la Torah. C'est-à-dire que même un tribunal non-juif qui dirait « nous reconnaissons la validité et la primauté des lois de la Torah », on ne pourrait pas lui confier une affaire d'argent entre deux juifs. Alors pourquoi ? Alors dans les Sfarim HaKdoshim, dans nos Sfarim HaKdoshim, dans les livres saints, est écrit la chose suivante. Il est écrit qu'en fait, il y a dans l'argent une partie de la neshama de chacun d'entre nous. Et lorsqu'on vole de l'argent à quelqu'un, eh bien, on lui soustrait non seulement l'argent, mais on lui soustrait non plus les parties de sa neshama, de son âme, qui sont investies dans cet argent. Et donc, nous disent nos sages, c'est la raison pour laquelle, lorsque quelqu'un a volé, il va devoir revenir en Gilgul, il va devoir revenir après, vivre une deuxième fois, pour réparer les morceaux d'âme, en quelque sorte, qu'il a soustrait à son prochain. Alors, ça va même beaucoup plus loin. C'est qu'on nous dit qu'une personne qui a été volée et qui n'arrive pas à faire valoir ses droits, évidemment, elle doit aller devant le tribunal faire valoir ses droits. Bien entendu, c'est tout à fait normal. C'est ce qu'on nous dit dans cette paracha-là. Si j'ai été lésé, je vais devant le tribunal rabbinique faire valoir mes droits. Mais si je n'arrive pas à faire valoir mes droits, les livres nous disent qu'on doit considérer que dans le Gilgul d'avant, dans l'existence que nous avions auparavant, nous avions nous-mêmes atteint le droit de propriété de cette personne ou d'une autre personne, et nous sommes venus ici pour réparer, pour rendre ce que nous avions pris de manière indue. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici ? On est en train de dire, en fait, que derrière la possession de l'argent, il y a une partie de nos âmes qui sont, en quelque sorte, investies dans cet argent. Ça, très très loin. Rabbi Mendel de Rimenov disait que lorsqu'un homme, eh bien, vole de l'argent à son prochain, il ne peut pas s'étonner après de voir que les parties d'âme qu'il a volées et qu'il va donc faire manger à ses enfants, vont faire que ses enfants vont mal tourner. Il disait, Rabbi Emmanuel de Rimenov, il disait, le grand-père a volé des chidouché Torah. Il a dit des paroles de Torah sans citer ses sources. Moi, quand je dis des paroles de Torah, je cite mes sources. J'ai souvent le cours de Rav Boyer, qui est un grand rave en Israël, qui fait des cours très spécialisés sur les dénimes du Nefesh, sur tout ce qui touche au Nefesh, et je m'inspire souvent de ses cours. Alors, Rav Boyer dit, alors les gens vont dire des divrées Torah sans citer leurs sources. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, l'enfant, lui, il va mentir, et le petit-fils, il va voler de l'argent. Il dit, Rabbi Mendel de Rimenov, Il faut trois générations pour former un voleur d'argent. À la manière dont les thérapeutes familiales aujourd'hui disent qu'il faut trois générations pour former un schizophrène. Le grand-père était violent, le père est encore plus violent, et l'enfant se retrouve victime de cette violence, devient schizophrène. Alors, on voit qu'il y a dans cette idée que finalement, à partir du moment où on manipule l'argent de l'autre, on manipule l'âme de l'autre. Alors on peut comprendre maintenant pourquoi un voleur qui, lui, ne pouvait pas rendre l'argent, il devait devenir esclave. Parce qu'il a pris des parties d'âme d'un autre, pas seulement l'argent, la partie de l'âme, il les a asservies à lui-même, donc lui-même maintenant il ne peut pas les rendre, mais il doit s'asservir. Et alors ce qui est extraordinaire, c'est que cet asservissement passe en héritage. C'est-à-dire que le maître juif peut prendre cet esclave juif et lui donner une femme cananéenne, et les enfants qu'ils auront appartiendront au maître. Comme si en quelque sorte, cette mentalité d'esclave, elle passait en quelque sorte dans les générations futures. Je crois que ça devrait beaucoup faire réfléchir les gens qui se comportent mal sur le plan de l'argent et qui font des grands chiloul Hachem, parce qu'il faut qu'ils sachent que c'est quelque chose qui passe alors dans les gènes en quelque sorte. Alors, il y a aussi un point qui est intéressant, on va dire Parashat Shkalim. Parashat Shkalim, on la lit pratiquement toujours avec Parashat Mishpatim, en tout cas c'est jamais très loin. Pourquoi ? Parce que dans Parashat Mishkalim, on apprend que les Bnei Israël ont donné le Machatit HaShekel, le demi-cycle d'argent, c'était un impôt au Beth Amikdash, et qui donc assurait le lien collectif du peuple juif au service du Beth Amikdash. Or, on voit que Aman Aracha, a voulu donner des demi-cycles d'argent, et alors on s'interroge pourquoi. On voit que le Midrash nous dit que HaKadosh Baruch Hu, Dieu lui a dit, tu es un rachat, sache que les Shkalim qu'ils ont donnés t'ont précédé, ont précédé tes Shkalim à toi. Qu'est-ce que le Midrash vient de nous enseigner ici? En fait, Aman, qui était un homme qui, comme tous les antisémites, connaissait très bien à la fois le peuple juif, mais aussi notre spiritualité, eh bien, Aman, en fait, a voulu faire une chose très simple. Il connaissait ce secret-là. Il savait qu'en prenant l'argent des Juifs, il prenait leur corps. Donc quand il va aller voir Achashverosh, Assuérus, il va lui dire, voilà, je te donne ici l'équivalent de ce que les Juifs donnent au Beth Amikdash, mais en fait, derrière tout ça, j'ai l'intention de racheter l'âme des Juifs et de la servir, et de la détacher en quelque sorte de Dieu, et donc de pouvoir ainsi les détruire. Et là, Dieu lui répond, mais non, tu peux le faire maintenant dans le monde matériel, mais dans le monde spirituel, ça ne marchera pas, parce qu'ils ont déjà donné cet argent pendant des siècles, et donc maintenant, ils sont à moi, en quelque sorte. L'âme est asservie au Beth Amikdash, à Dieu, et donc elle ne peut pas être reprise. C'est la raison pour laquelle, là aussi, un lien, par cette Mishpatim, par cette Shkalim qu'on va lire, d'ailleurs, cette semaine, parce que finalement, dans l'argent, il y a ce secret fondamental de l'âme. Quand quelqu'un possède quelque chose, ça n'est pas seulement des biens qu'il possède, c'est une partie de son âme qui est, et quand on le lui vole, c'est une partie de son âme, et donc l'âme du voleur est en quelque sorte maintenant asservie à ce méfait. Donc, c'est une dimension qui est tout à fait fondamentale. Elle explique par exemple pourquoi les tzadikim, les justes, il est dit à leur sujet, « Chavim mamonam ki goufam », ils aiment leur argent, ils aiment leur corps, parce qu'ils savent, la valeur qu'il y a dans cet argent, mais ils savent également le secret spirituel qu'il y a dans cet argent, et que finalement, au travers de cet argent, comme Yaakov était parti récupérer quelques objets perdus, d'accord, comme dans le camp des Bnei Israël, il y avait une tribu, la tribu de Dan, qui était consacrée donc à rendre les objets perdus. Et on sait que cette tribu était aussi tribu pour le Kirouv, aller chercher les âmes perdues, parce qu'elle cherchait à rendre au peuple juif les âmes perdues aussi. Donc il y a ce lien, c'est un lien fondamental qu'il faut connaître, et qu'il faut respecter. Respectons notre argent, gagnons-le proprement, respectons l'argent des autres, n'y touchons pas cet accord, soyons droits et soyons justes dans nos affaires, et soyons droits et justes avec notre âme et celle de nos enfants. Je crois que c'est un enseignement fondamental de ce lien-là entre Parashat Shkalim et Parashat Mishpatim.
Eh bien, Rav Mordechai Biton va essayer de s'y tenir et de réfléchir à votre enseignement, notamment ce soir. Je vous remercie pour ces paroles fortes en provenance de Jérusalem. Merci à vous, Rav Mordechai Biton. Bonsoir et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Mayasha Drey. Bonsoir Mayasha.
Bonsoir, Shabbat Shalom,
Omevorah. Shabbat Shalom, Omevorah. En rappelant aussi que le cours après est rediffusé le samedi soir, évidemment. Et alors, on continue avec Mishpatim, la paracha de cette semaine, comme on vient de le dire. Et alors, vous avez vu quelque chose d'extraordinaire, c'est que toutes ces lois, toute cette succession de lois n'a finalement qu'un seul but. Supprimer toute idée de rapport de force entre les hommes.
Ouais. Ouais, voilà, c'est un petit peu la clé de lecture que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, qui est fondamentale. Vous savez, quand s'ouvre cette paracha, parce que la semaine dernière, on était sur le Sinaï, hein, on était tout là-haut, on était dans une Torah un peu de chauffard et de colotte et de brakim et d'éclairs et de tonnerres. Et puis là, cette semaine, on est très, très terre-à-terre, extrêmement terre-à-terre. Et la Torah, la paracha plutôt, va s'ouvrir avec ce terme « Ve'eleha mishpatim ». Voici donc les lois qui sont des lois, cette fois-ci, que je pourrais apparenter au contrat social de Rousseau, à un contrat de vivre en société de la façon la plus harmonieuse qui soit, et Rashi sur place, de préciser que ces lois doivent être comme un shulchan arour devant toi. Alors c'est une expression magnifique de Rashi, comme une table dressée. Et c'est de ce Rashi que vient le fameux titre du livre de Rav Yosef Karo, Shulchan Arour, qui veut rien dire d'autre qu'une table dressée. Et moi, je voudrais vous présenter un petit peu l'idée que m'a donnée cette expression-là, que toutes les lois soient-elles une table dressée. Eh bien, on a l'habitude de dresser nos tables particulièrement bien en l'honneur de Shabbat. Voilà, ce soir pour Shabbat, une belle, belle table dressée. On attend les convives, qui sont en général des personnes d'une même famille, avec les tontons, les tatas, peut-être les cousins, cousines. Bon, on va oublier le Covid pour une fois, mais et peut-être des amis, mais en tout cas un cercle proche. Eh bien, ce que souhaite la paracha de Mishpatim, c'est que le cercle qui s'assoit autour du Shulchan Aruch, autour de la table dressée, puisse partager un repas harmonieux, où il n'y a pas entre les uns et les autres des désirs de se montrer plus fort, de se montrer supérieur, d'avoir le dernier mot, de rabaisser quelqu'un, de l'amoindrir ou de ne pas comprendre sa souffrance, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans Mishpatim. Et donc je crois que vraiment toute cette paracha, c'est comment faire en sorte pour que l'on soit tous assis autour d'une table dressée et que l'on soit heureux, que l'on soit bien autour de ce Shulchan Aruch, de cette table dressée. Alors en effet, je trouve que tout au long de cette paracha, la Torah va évoquer de très nombreuses relations qui sont horizontales, puisque la seule relation verticale qui soit, c'est celle avec Hachem ou avec nos parents, mais il n'y a pas d'autres relations verticales dans la Torah. Toutes les autres relations sont horizontales et doivent le rester. Or, on le sait très bien, pour peu qu'une personne ait un ascendant sur l'autre, pour une raison ou une autre, l'humain va avoir cette mauvaise tendance à vouloir transformer la relation qui aurait dû être horizontale en relation verticale, en ce que nous appelons un rapport de force. Alors, ça va être le maître vis-à-vis de l'esclave dans la paracha, ça va être le résident vis-à-vis de l'étranger, qui va lui faire sentir ô combien il est étranger. Ça va être le séducteur face à la jeune fille qui est séduite. Ça va être le prêteur face à l'emprunteur. Et bien sûr, l'homme face à la femme qui pourrait lui aussi en être amené à penser qu'il y a une notion de supériorité ou de domination. Et alors, tout au long de la paracha, quand on a cette clé de lecture, on découvre que la Torah vient et ramène l'individu en permanence à une relation horizontale telle qu'elle doit être d'homme à homme, de personne à personne, d'humain à humain, et non pas vers une relation où il y aurait une supériorité de quelque ordre que ce soit. Et notamment pour reprendre l'exemple du résident et de l'étranger, la Torah nous enjoint, attention, atem yedatem et nefesh ager, vous savez, vous connaissez comment ressent, quel est le ressenti de l'étranger, parce que n'oubliez pas que vous étiez étranger en terre d'Égypte. Et je me plais à expliquer de cette façon ce verset. On pourrait avoir tendance à dire, eh bien, nous étions étrangers, donc on ne fera pas subir aux autres, mais c'est la vérité. En réalité, l'inverse est la vérité. C'est-à-dire que quand on a subi quelque chose, eh bien, il peut y avoir une tendance inconsciente, au-delà de notre volonté, à se dire, c'est pas si grave. Eh bien, moi, je l'ai surmonté. Eh bien, voilà, moi, je l'ai été. Il peut y avoir cette tendance, soit du fait qu'on l'a surmonté, soit une tendance en plus profonde à faire subir ce dont on a été soi-même victime. Et ici, la Torah nous enjoint attention à ne pas imaginer qu'il y a une quelconque relation qui ne soit pas horizontale entre le résident et l'étranger. Bien entendu, l'exemple du prêteur et de celui qui emprunte, c'est l'occasion ici de rappeler que c'est un interdit majeur dans la Torah de prêter de l'argent avec intérêt. Alors, bien sûr, comment est-ce que l'argent fait de l'argent ? En faisant des intérêts. Et c'est la loi du monde, c'est la loi économique du monde. Mais la loi juive, c'est une loi qui est différente et qui part du principe que si une personne a cette supériorité, entre guillemets, ponctuelle, d'avoir de la facilité financière et qu'un proche n'a pas de facilité et en vient lui demander un prêt, eh bien, demander des intérêts, c'est tout simplement bénéficier du malheur de l'autre. C'est trouver un intérêt, au sens propre du terme, trouver un avantage au fait que quelqu'un dans mon entourage ne va pas bien et a des difficultés financières. Et ça, ce n'est pas possible. C'est absolument pas possible. Et je voudrais terminer quand même peut-être avec le rapport de force le plus, je ne sais pas si je peux dire le plus grave, ils sont tous graves, mais en tout cas le plus actuel peut-être, le plus actuel pour nous et le plus courant, c'est le rapport de force que la société ou certaines cultures peuvent avoir à créer entre l'homme et la femme, où l'homme s'octroierait une possibilité d'avoir une forme de domination, quelle qu'elle soit. Et je voudrais rappeler ici que dans notre paracha, nous avons les fondements de ce que nous appelons la ketouba. La ketouba qui est un acte à l'origine dans la Torah, qui est un acte qui engage le mari. C'est le mari qui s'engage à ne pas diminuer pour son épouse les trois fondamentaux qui sont les vêtements, la nourriture, donc tout ce dont elle a besoin, plus la proximité physique, à ne rien diminuer de tout ça, de tout ce qui peut lui accorder du bien-être. Et c'est un engagement masculin. Donc la Torah ici, la Torah est visionnaire évidemment, puisque c'est le mode d'emploi du monde, nous dit attention, attention. Hein, ça a mis quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de siècles avant que la femme, que le monde laïque reconnaisse les droits de la femme. Mais à une époque, il y a 3300 ans, où la femme n'avait absolument aucun droit dans le monde, la Torah, elle, va venir légiférer une ketouba, c'est-à-dire un document officiel d'engagement masculin pour protéger les droits féminins. Malheureusement, je dis bien, cette ketouba qui est là pour protéger la femme a été utilisée de façon tordue, pour ainsi dire, et des hommes se sont octroyés dans l'histoire du peuple d'Israël, se sont octroyés la possibilité, ou se sont inventés cette possibilité de pouvoir laisser une dame, une femme, comme on dit, aguna, c'est-à-dire de la laisser bloquée, coincée, emprisonnée dans un lien qui n'est pas un lien, puisqu'il s'agit d'un couple qui s'est séparé et d'un homme qui refuserait de donner le guet, donc le contrat, à son épouse. Et alors bien sûr, la Torah orale a toutes sortes de possibilités difficilement mises en place aujourd'hui, mais pour obliger, parce que encore une fois, c'est un rapport de force. Il s'agit d'un rapport de force qui n'a pas lieu d'être, qui ne devrait pas exister. Et je profite de votre antenne pour lancer pour la énième fois cet appel. Vous avez sûrement entendu comme moi cet horrible meurtre qui a eu lieu en Israël cette semaine. Et d'ailleurs, que ce cours soit pour Leilui Nishmat, la dame Diana, je crois, qui a été assassinée par son mari.
Diana Raz, 32 ans.
32 ans devant ses enfants.
Quatre enfants.
Voilà. Quatre enfants, voilà, Dieu préserve. Et finalement, ici, c'est peut-être l'occasion de rappeler ô combien il faut faire attention à des signes de folie, j'appellerais ça comme ça, à se documenter, demander de l'aide, se mettre en situation de protection. Enfin, je voudrais, c'est à notre tout petit niveau ici, tout petit, faire de la prévention, mais peut-être aussi rappeler que la Torah est là pour protéger l'individu, quel qu'il soit. Là, il s'agit de la femme, mais vous voyez, dans Mishpatim, quel qu'il soit, quand il est dans une situation de difficulté, que personne autour de lui ne profite de sa difficulté. Et donc, en effet, qu'il faudrait que ce ne soit absolument pas possible en France, tout comme ça l'est de moins en moins en Israël, qu'une personne refuse de donner le guet à sa femme quand vraiment le couple n'a pas d'issue possible, qu'il n'y a pas de réparation possible. Eh bien, la Torah a envisagé la procédure du guet qui permet de séparer, j'ai envie de dire, tranquillement et gentiment deux personnes qui ne peuvent pas vivre ensemble. Mais en tout cas, il ne faut pas que ça se termine par un drame ni de l'ordre de la Haguna, ni de l'ordre de ce que des faits divers qu'on entend, qu'on a pu entendre, et que vraiment cette paracha de Mishpatim puisse rentrer vraiment nous fertiliser, nous faire prendre conscience si toutefois dans le Shulchan Arour, c'est-à-dire dans cette table dressée où nous sommes tous assis les uns à côté des autres, eh bien s'il y a une personne qui cherche à avoir un rapport de force ou si on subit un rapport de force, quel qu'il soit, eh bien la Torah va tout faire dans Mishpatim pour venir gommer ce rapport de force et faire en sorte que chacun réfléchisse à sa posture et que la seule véritable relation verticale qui soit, c'est la relation que l'on a avec nos parents et avec Akadosh Baruch Hu.
Alors moi qui ne suis que journaliste, j'écoute votre cours, c'est vous qui êtes enseignante, je suis votre élève quelque part. Je veux souscrire entièrement à ce que vous dites en précisant deux choses. La première, c'est qu'on avait en fait au début de l'émission dit voilà, ce cours on va le donner à Rav Rosenberg Zatzal, puisque c'est mercredi son deuxième ESPED et qu'il y a un allodon qui va avoir lieu, il y a toute une série de choses qui vont être faites pour aider à construire un kollel à Jérusalem en son nom, qui serait dirigé par son fils, Rav Yosef Rosenberg. Et je pense que d'un commun accord, nous tous dans cette émission, et moi je le répète, je ne suis pas enseignant, mais on associera évidemment Diana Raz, cette femme étincelante, il faut voir les photos, on prend peur. Comment on a pu briser une vie pareille, 32 ans, 4 enfants, et les Ilui Nishmat, on l'ajoutera évidemment à notre conversation du vendredi soir. J'ajoute par ailleurs qu'il y a un autre cas de violence faite aux femmes, cette femme donc, que le mari a essayé d'assassiner. Il lui a cassé toutes les dents, je ne sais pas si vous avez vu les photos, un massacre, un vrai massacre, sur sa propre femme. Et en plus, il ajoute la perversité à la cruauté en refusant en plus de lui donner son guet pour qu'elle ne puisse pas reconstruire sa vie. Et le Dayan a eu une idée extraordinaire dont on a parlé hier à l'antenne, mais juste incroyable idée. Alors, il a d'abord condamné à une semaine de cachot, c'est-à-dire qu'il est en isolement dans une cellule de 2 mètres sur 2 mètres. Le gars vient au Beit Din pour plaider l'histoire du guet. Le Dayan lui dit « Vous donnez le guet ?» Il dit non, parce que lui, on voit donc bien qu'il est complètement devenu fou. Et le Dayan dit « Ah, d'accord, bon, alors vous ne donnez pas le guet, il n'y a pas de problème. » Je ferme l'audience. Prochaine audience, tenez-vous bien, Mariacha. Prochaine audience dans un an. Et alors, et Dayan s'en va. Alors, le gars qui plaide dit à son avocat, il lui dit mais pendant un an, je reste au cachot. Il dit oui, tu restes au cachot pendant un an. Puisque la prochaine audience est dans un an et qu'il n'y a pas eu de nouveau jugement. L'avocat est sorti en courant en disant Rav, on signe, on donne le guet à la dame. Ouais.
Évidemment. Voilà. Il y a des méthodes. Hein? Il y a des méthodes. Il faut pas hésiter à utiliser ces méthodes-là. Magnifique.
Magnifique. Quelle psychologie du Rav qui a fait croire qu'il lui fallait un an pour faire une deuxième audience. Il peut faire une audience 15 jours après s'il veut. Ok, rendez-vous dans un an. Et en attendant, vous restez au cachot, il n'y a pas de problème. On n'a pas fait de nouveaux jugements, donc on garde le même. Incroyable. Maria Chadré, je vous remercie pour ces très belles paroles, comme chaque semaine. Merci à vous, Shabbat Shalom.
Quoi, vous me verrez un bon mois de Hadar, si Dieu
veut. Oui, et que toutes les mauvaises, et que la magéfa se retourne. Oh là là, j'allais oublier. Merci. Merci à vous. Chodesh Tov, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halakha, grâce au Rav David Abendanan. Bonsoir Rav David.
Bonsoir Bernard, c'est aussi grâce à Bernard.
Ah, c'est gentil ça, mais non, je pense que c'est surtout à Rav David. Mais c'est gentil, je prends le compliment. On va parler d'ailleurs de 4 parachiotes. Donc on a bien compris que chaque semaine dans notre émission, on étudie une paracha, c'est donc un passage de la Torah qu'on lit chaque semaine. Et alors là, il y a une histoire de 4 parachutes. D'abord déjà, pourquoi 4 parachutes ? De quoi on parle ?
À compter de ce Shabbat, donc du Shabbat qui précède Rosh Chodesh Adar, ou alors du Shabbat qui est lui-même Rosh Chodesh Adar, c'est le cas cette année, nous avons l'habitude de sortir, durant 4 semaines, quasiment d'affilée, 2 Sifrei Torah, et de lire une seconde paracha. Et on appelle ça les 4 parachutes, parce qu'il y a 4 Shabbats qui se distinguent par le fait que durant ces 4 Shabbatot, nous sortons 2 Sifrei Torah, et nous lisons dans le second une deuxième paracha, qui va être une paracha qui va être adaptée à la période que nous sommes en train de vivre. Donc, ils portent les noms de Shabbat Shkalim, Zachor, Para et Achodesh. On va revenir après un petit peu sur la signification de chacun. Et au-delà du fait que l'on sort donc un deuxième Sefer Torah et qu'on lit une seconde paracha, ces quatre Shabbatot ont aussi une haftara qui leur est particulière. Et une haftara qui prime sur les autres haftarot. Ce qui veut dire, prenons un exemple, que ce Shabbat, c'est un Shabbat qui est Rosh Chodesh. Normalement, le Shabbat de Rosh Chodesh, on a l'habitude de lire la haftara de Rosh Chodesh. Eh bien non, nous ne lirons pas la haftara de Rosh Chodesh, nous lirons la haftara de Shabbat Shkalim. Puisque le fait que nous sortions le deuxième Sefer Torah pour lire la paracha de Shkalim, cela prime sur le Rosh Chodesh. Ces quatre Shabbatot ont donc cette particularité, et chacun, on peut l'identifier et essayer de comprendre, on essaiera en détail au fur et à mesure de l'émission, de comprendre pourquoi chacune de ces parachiot a été instaurée.
Et y a un ordre ? On doit les lire dans un ordre particulier ? Et si oui, pourquoi ?
Alors effectivement, il y a un ordre particulier. On commence par le Shabbat Shkalim, qui est le Sefer Torah que nous allons sortir cette semaine, puisqu'on avait l'habitude que Be'echad Be'adar Mashmin al Shkalim. Lorsqu'approchait Rosh Chodesh Adar, on faisait savoir aux gens qu'il faut participer, contribuer d'un montant d'un demi-shekel. Donc un demi-shekel, c'est un poids d'argent pour le Beit HaMikdash. Ce demi-shekel servait, en fait, ça allait dans une caisse où chacun mettait exactement la même somme. Et grâce à cette caisse, on achetait les korbanot tzibour, c'est-à-dire les sacrifices qui étaient offerts par le Beit HaMikdash, donc par tout le peuple, de façon à ce que dans chacun des sacrifices qu'on apporte, chacun des membres du peuple juif a exactement la même contribution. D'où le nom de Shabbat Shkalim, puisque ça correspondait avec le début du mois de Hadar. On a ensuite, vient après le Shabbat Zachor, Zachor du nom de Souviens-toi, on va lire la paracha de Amalek, et ce Shabbat précède toujours Pourim, afin d'accomplir la mitzvah de se souvenir, avant d'accomplir la mitzvah de l'effacer, qui est le message de Pourim. Ensuite, on a le Shabbat Para, du nom de la para Adouma, la vache rousse. On va lire un passage de la paracha de Choukat pour rappeler au Bnei Israël qu'il faut se purifier à l'approche de Pessah. Quand Pessah arrive, vous savez qu'on a tous l'obligation à l'époque du Beit HaMikdash de faire le Korban Pessah, obligation qui est aussi importante que la Brit Mila. Aujourd'hui, on ne s'en rend peut-être pas compte parce qu'on n'a pas encore le Beit HaMikdash, mais on s'en rendra bientôt compte, Bezrat Hashem. Et enfin, Shabbat HaChodesh, pour fêter l'arrivée du mois de Nissan, qui est HaChodesh HaZelachem Rosh Chodashim, qui est le début de l'année dans le sens biblique du terme.
Alors, je vois autour de moi que beaucoup de gens pensent que le Shabbat Zachor, c'est un peu plus important, parce qu'il faut entendre Zachor. Est-ce que c'est une idée reçue ? Et est-ce qu'il y a une obligation pour les femmes de venir Shabbat Zachor ?
Ce n'est absolument pas une idée reçue, effectivement. Ah. Ces quatre Shabbatot ont une importance, mais le Shabbat Zachor a une importance supérieure, supplémentaire. Il y a, d'après la majorité des décisionnaires, une mitzvah minatora, donc un ordre de la Torah, d'accomplir la mitzvah, de se souvenir de ce que nous a fait Amalek dans le désert. J'invite à tout le monde à lire dans un chumash traduit la paracha que nous allons lire. Et cette mitzvah, on doit avoir l'intention de s'en acquitter. On doit écouter la lecture d'un Sefer Torah. On a l'habitude de sortir le Sefer Torah le plus méhoudar, le plus kasher de tous les Sifrei Torah dont on dispose à la synagogue. Et il faut écouter cette lecture. C'est extrêmement important. Est-ce que les femmes y sont astreintes ? C'est une discussion entre les décisionnaires. Rav Ovadia Yossef dit que ce serait bien que les femmes viennent l'écouter, mais une année comme celle que nous sommes en train de passer, où c'est peut-être un peu plus difficile de sortir ou d'organiser une configuration où les femmes peuvent écouter, eh bien, elles peuvent ne pas l'écouter cette année-là, mais pour les années en général, c'est bien que les femmes écoutent. Dans beaucoup de synagogues, on a même l'habitude, avant Mincha, de ressortir à nouveau le Sefer Torah pour relire Parashat Zachor. Quelqu'un qui aurait oublié d'écouter, qui n'aurait pas pu, il a tout le mois de Hadar pour l'écouter, et si vraiment il a laissé passer le mois de Hadar, eh bien, il y a encore un moyen de se rattraper, c'est de, lorsqu'on va lire cette même paracha, dans paracha de Kitetsé, ça va tomber à peu près en juillet, et bien là, il faudra avoir l'intention de s'acquitter de la lecture de la paracha de Zachor.
Alors, donc voilà, si on en a raté une, je viens de comprendre, mais maintenant, en regardant le calendrier, je vois qu'il y a un Shabbat au milieu du mois de Hadar, dans lequel on fait une interruption. On ne lit pas de paracha supplémentaire, pourquoi ?
Vous êtes perspicace, Bernard. Vous êtes perspicace. Effectivement, merci. Il y a un Shabbat qui s'appelle Shabbat Hafsaka, un Shabbat d'interruption. Vous vous souvenez, Bernard, que nous avions expliqué les règles du calendrier. Et je vous avais dit que les règles étaient extrêmement nombreuses et qu'on n'avait pas pu toutes les aborder. Eh bien, il y en a une que nous n'avons pas abordée qui s'appelle, tenez-vous bien, Zatu Bo Dad Uvio. Ça a l'air un peu barbare, ça a l'air d'être une formule magique. Eh bien, en réalité, c'est un moyen mnémotechnique pour comprendre quel doit être le Shabbat d'interruption dans chaque configuration d'année possible. On va prendre un exemple, la configuration de cette année. Cette année, nous avons le premier Hadar qui tombe un Shabbat. Shabbat qui va être qui va être signifié par là la lettre Zayin, Zayin qui veut dire septième jour de la semaine. Donc nous sommes dans une configuration qu'on va appeler Zatou, Zayin Tetvav. Ça veut dire que lorsque Rosh Chodesh Adar tombe un Shabbat, le Shabbat de Hafsaka, c'est le Tetvav Adar. Et lorsque vous regardez le calendrier cette année, effectivement, le 15 Adar, c'est-à-dire le lendemain de Purim, on ne sort qu'un seul Sefer Torah. Il existe même une configuration, si le Rosh Chodesh Adar tombait un vendredi, où il y aurait eu deux Shabbatot dans lesquels nous aurions fait cette Hafsaka, dans lesquels nous n'aurions rien lu. Mais effectivement, il y a durant le mois de Hadar un ou deux, selon les configurations, Shabbatot, durant lesquels on ne sort qu'un seul Sefer Torah. Vous avez très bien remarqué.
Alors, j'ai aussi remarqué que pendant Shabbat Shkalim, donc si j'ai bien entendu ce que vous me dites, c'est cette semaine, on doit donner deux fois 50 centimes d'euros. Parce que comme ça, c'est une très belle tradition. J'imagine même d'ailleurs qu'on essaye de le faire avec les enfants, parce que c'est très beau. Ça. On fait comme si on donnait Machatzit HaShekel, comme à l'époque du Temple. Mais là, aujourd'hui, vendredi, c'est trop tard. Si je ne le fais pas aujourd'hui, je peux faire dimanche ?
Alors, concernant le Machatzit HaShekel, Bernard, on a l'habitude, non pas nous, de le donner lorsqu'arrive le Shabbat Shkalim, mais plus de le donner en général à l'approche de Purim. Et même pour être précis, en fait, souvent, on le donne le jour de Ta'anit Esther. Ah, alors, on ne donne pas deux fois 50 centimes.
Bon, j'ai le temps, alors.
Il y a différents avis. Il y en a qui disent 50 centimes, il y en a qui disent 10,4 grammes d'argent. Vous regardez le cours de l'argent et c'est la somme qu'il faut donner. Je pense que ça fait à peu près 5 euros, quelque chose comme ça. Et surtout, on ne donne pas Machatzit HaShekel, puisque si on donnait Machatzit HaShekel, ça devrait aller au Beth Amikdash, mais on n'a plus de Beth Amikdash, on ne pourrait plus toucher l'argent jusqu'à la venue du Mashiach. En revanche, on donne ce qu'on appelle Zecher, les Machatzit HaShekel, c'est-à-dire un souvenir de Machatzit HaShekel qu'on donne à des endroits dans lesquels on étudie la Torah, en souvenir de ce qu'on donnait à l'époque au Beth Amikdash, et en priant qu'on puisse bientôt à nouveau donner le vrai Machatzit HaShekel.
Magnifique, et on va prier avec vous qu'on y arrive le plus vite possible. Et vous parliez d'un lieu de Torah, je voudrais rappeler, on en a parlé à plusieurs reprises au cours de cette émission, que cette semaine, mercredi, on va marquer la deuxième année de la disparition de celui qui était de la vie presque unanime, le grand Gaon de Paris, c'est Rav Rosenberg, Zatzal. Et voilà, c'était vraiment une sommité en Torah, on était tous ses élèves, vous plus que moi. Et je voudrais rappeler que voilà, il va y avoir des gens qui peuvent vous appeler, vous allez peut-être recevoir des WhatsApp. Faites-le avec énormément de gentillesse, recevez-les avec énormément de gentillesse, répondez gentiment, transférez également si vous avez reçu ces messages sur votre téléphone, parce que c'est juste un Makom Torah, et un nouveau Makom Torah d'ailleurs qu'on crée à Jérusalem, et c'est aussi la mémoire de ce très grand tzaddique qui était Rav Rosenberg, qui nous manque énormément. Donc voilà, je pense qu'on va... Ça sera une très belle conclusion pour notre émission. C'est un allodon, en fait. Hein, vous connaissez le système. Ce qui fait que, d'ailleurs, je peux me permettre de vous dire, mettez la main à la poche. Hein, ça ne sert à rien d'être gentil si ce n'est pas pour donner même un minimum. Même ce que vous pouvez faire. Allodon, il n'y a personne qui vous regarde. Vous donnez ce que vous voulez. Voilà. C'est la conclusion de notre émission. Rav David Abedana.
Très belle conclusion. On lit l'acte à l'enseignement. Il n'y a rien de plus beau.
Voilà. Et, ouais. Et voilà, bah, on voit le digne élève de Rav Rosenberg. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et c'est à mon tour de vous souhaiter Shabbat Shalom.